Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h32, on est en direct dans Europe Soir et on ouvre maintenant le débat des grandes voix, comme chaque soir, avec à mes côtés en studio Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
100 milliards d'euros pour relancer la France. Cette fois, ça y est, avec un peu de retard, on connaît enfin le détail des mesures. 30 milliards pour la transition écolo, 36 milliards pour la cohésion sociale, 34 milliards pour la compétitivité. C'est clairement un plan qui fait la part belle aux entreprises, un plan pro-business. D'ailleurs, Jean Castex l'assume.
Je le dis clairement ici, le plan opérera d'abord une relance par l'offre. La priorité va donc au soutien assumé à l'offre et à l'investissement productif.
Voilà, déclaration du Premier ministre, c'était il y a quelques jours à l'université d'été du MEDEF. Jean Castex qui a présenté tout à l'heure en conférence de presse son plan. On connaît les mesures, on connaissait les grands volumes et puis on connaissait beaucoup de mesures, mais il est rentré dans les détails avec la question et les questions des journalistes. Charles Villeneuve, un mot peut-être d'abord sur l'orientation de ce plan, l'offre plutôt que la demande. Est-ce qu'on en fait trop pour les entreprises et pas assez pour les ménages, comme le disent certains?
Moi, je le crois. Je le crois d'autant plus qu'on est né sur tous les comptes d'épargne. Sur le livret A, d'après donc les banquiers que j'ai consultés tout à l'heure, on est à peu près à 20 milliards. Et sur tous les comptes d'épargne, on est à 100 milliards. Mmh. Et tout l'été, et depuis le déconfinement, les Français n'ont pas consommé. Les Français ont peur, d'abord, du Covid, évidemment, mais ont peur aussi de perdre leur emploi. Alors évidemment, ce plan a tenu compte, justement, de cette crainte. Mais il n'empêche, si vous voulez, que la consommation demeure entravée par une très forte épargne. Et cette forte épargne, eh bien, il n'y a aucune incitation, si vous voulez, pour qu'elle sorte des comptes. Et non seulement pas d'incitation, si vous voulez, à l'égard des ménages, par exemple, je ne sais pas, on aurait pu encourager par des primes, et ça avait très bien marché pour l'achat de voitures,
oui.
par exemple.
Prime à la conversion.
Mais ça marche, non ?
Catherine Ney.
Mais non, ça ne marche plus. C'est-à-dire que
on
maintenant, de toute façon...
On n'a jamais autant vendu de voitures en juin.
Oui.
Mais plus que l'année dernière.
Eh bien, c'est bien pour ça qu'il fallait continuer à encourager et justement, et cibler beaucoup plus les ménages qu'on ne l'a fait. Et moi, je trouve aussi qu'à force de diminuer notamment la fiscalité des collectivités locales, qui tiennent un rôle très important sur ce plan-là, eh bien, on a aucune incitation dans les cibles qu'on a déterminées.
C'est vrai que Jean Castex est en train de faire ce que la droite n'a jamais fait. On n'a jamais autant baissé les impôts pour les entreprises. On n'a jamais autant relancé la compétitivité française, faire baisser le coût du travail
notamment.
On
n'a jamais autant.
Attendez, Michel Cotta, question. Est-ce que ce plan, il est selon vous bien calibré, Michel
Cotta? Pour répondre en tout cas à Charles, je vois très bien que l'incitation aurait pu, etc. Mais il faut bien dire que beaucoup de choses ont été faites avant. Le chômage partiel, c'est quand même un coup de pouce formidable donné aux familles. Alors, peut-être qu'on peut toujours aller plus loin.
Moi, je te réponds, mais c'est il y a 100 milliards sur les comptes d'épargne. Donc, les Français...
Oui, il faut qu'il
il faut de la confiance pour consommer.
C'est pour ça, qu'au fond...
Et si tu n'as pas de confiance, parce que ce plan est fait aussi pour le président de la République... dans la perspective de 2022.
Alors, sur
la confiance en l'État, c'est clé dans
cette
affaire.
Michel Cotta, sur le calibrage, est-il bien calibré et le gouvernement a-t-il raison de faire le pari des entreprises?
Écoutez, dans l'état actuel des choses, moi, je vous dirais que, je pense qu'il a raison, mais que c'est quand même, c'est très intéressant de voir d'abord qu'il aide les entreprises, et puis dans quel sens il les aide, c'est-à-dire l'hydrogène, le bâtiment, etc., c'est pas indifférent, et puis les investissements à long terme.
Alors, baisse des impôts, massif, sans contrepartie, c'est ce qui fait grincer les dents quand même.
Le problème, c'est un, est-ce qu'on peut avoir confiance dans les patrons pour qu'ils répercutent leur baisse et qu'ils ne profitent pas de ça pour alimenter leurs actionnaires, c'est sûr, c'est une...
C'est quand même au demeurant le principe du capitalisme. L'entreprise, elle est faite pour rémunérer des actionnaires.
On est dans un cas très particulier où les patrons ont plutôt besoin d'avoir de l'argent et des perspectives que d'autres choses parce qu'il n'y en a pas. Et puis le deuxième pari, c'est évident, c'est le pari du Covid. C'est-à-dire, tout ça est quand même, et c'est ça qui fait, à mon avis, une grande part d'insécurité, c'est s'il n'y a pas de rebond du Covid, s'il est maintenu, c'est un plan qui, s'il y a un rebond, c'est vrai que ça va poser d'autres
Catherine
questions.
Catherine, la même question, est-ce qu'il est bien calibré ce plan de relance ?
Il est calibré en tous les cas, comme jamais, vous l'avez dit, on l'a calibré. Mais vous savez, en ce moment, il y a deux pays qui sont leaders en Europe. C'est l'Allemagne et puis la France.
Oui.
La différence entre l'Allemagne et la France, c'est que l'Allemagne, elle a un réseau d'entreprises, des grosses, des moyennes, des petites, qui font que le chômage est à moins de 5%. Et que le pari d'Emmanuel Macron et de Jean Castex, c'est de dire, si on veut rassurer les gens, si on veut qu'ils dépensent, parce qu'ils ont de l'argent, il y a 100 milliards
oui,
de côté,
oui.
C'est pas comme s'il y avait rien,
oui.
Il y a 100 milliards. Eh bien, si on veut qu'ils dépensent, eh bien, il faut créer de l'emploi. Pourquoi les gens, ils économisent aujourd'hui ? Parce qu'ils ont peur d'emploi. Ils ont dit, notre enfant ne va pas trouver de travail et tout ça. Donc, créer de nouvelles industries, comme le dit Bruno Le Maire, qui a été dans ce plan qu'il prépare depuis des mois.
Oui.
Il l'a travaillé, il l'a dit, avec des économistes, des entrepreneurs, des partenaires sociaux. Et ce qu'il voudrait, c'est ouvrir de nouveaux marchés d'avenir. Il est temps de passer à autre chose, inciter les entreprises à investir sur de nouveaux terrain porteur où la France peut être bonne et créer des emplois.
Et créer et la France... le contexte de,
voilà.
la confiance
de la confiance
pour que les ménages
voilà.
consomment.
Voilà.
On continue d'en parler dans quelques secondes, 18h39. Et puis on parlera également de cette confirmation. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas ? Gardez
la
votre
consommer,
réponse, Catherine.
Bien sûr.
On en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h40, on est toujours en direct dans Europe Soir avec à mes côtés Catherine Ney, Michel Cotta et Charles Villeneuve qui continuent le débat oui. pendant la publicité sur ce plan de relance. Est-il bien calibré ? Fait-il trop peut-être la part belle aux entreprises ? On en parlait juste avant la pause et on va continuer d'en parler. Alors c'est vrai qu'on évoquait les chiffres. Plus de 35 milliards d'euros qui sont destinés directement aux entreprises, des baisses d'impôts, des investissements pour renforcer aussi les fonds propres des entreprises. Et puis, quand on regarde le soutien aux personnes précaires, vous l'évoquiez, Charles Villeneuve, 100 euros pour l'allocation de rentrée, ticket restaurant universitaire à 1 euro, soutien aux associations, ça représente 800 millions d'euros sur 100 milliards. Est-ce que c'est assez ?
Mais de toute façon, ça n'est jamais assez. Mais la France, c'est la dépense publique, c'est le pays qui dépense le plus pour sa dépense publique. Vous ne pouvez pas dire que la France n'a pas une politique sociale. Il n'y en a jamais assez. Mais est-ce qu'il faut être un paradis social dans un cimetière économique. Aujourd'hui, je pense que si la France veut se relever, il faut qu'elle ait des entreprises, qu'elle crée des emplois, qu'elle crée de la richesse, et c'est comme ça qu'elle pourra mieux distribuer. Aujourd'hui, elle distribue en s'endettant. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, elle s'endette, mais c'est un endettement qui peut porter ses fruits et qui n'est pas un puits sans fond. Je pense que c'est la première fois qu'il y a une tentative de faire ça en bloc. Je ne sais pas si ça va réussir, parce que d'abord, ça dépend de la rapidité des résultats. Or, d'abord, il faut que ce budget, ce plan de relance, il soit voté. Il sera voté cet automne, il commencera à être appliqué en janvier. Donc, il ne va rien se passer pendant 3 mois.
Et puis, quand on dit 100 milliards, en fait, c'est 50 milliards la première année, 50 milliards la seconde année.
Oui. Oui,
donc
c'est
pas 50 milliards
c'est déjà,
milliards.
C'est déjà pas mal.
40 milliards sont remboursés par la Banque Centrale Européenne.
Oui, absolument. Oui. Charles Villeneuve.
Oui. Non, mais ce plan de relance, si vous voulez, doit avoir des effets sur la vie quotidienne des Français. Bon, c'est ça, le rétablissement de la confiance à l'égard de l'État et du président de la République. Bon, sinon, il ne se verra pas.
Et donc là, ils font le pari des entreprises.
Voilà, d'autant que mais parce qu'il faut, c'est vrai, relancer l'industrie française qui est totalement anesthésiée depuis le début de la crise sanitaire.
Oui.
Et c'est vrai. Et d'autant plus que cette industrie française ne vend pas assez. C'est pour ça qu'elle a besoin de clients. Et c'est la raison pour laquelle ces mêmes clients sont tout autant anesthésiés. Quand on voit que ce mois-ci, 8 milliards de déficit du commerce extérieur, 7 milliards le mois dernier, 5 milliards au mois de juin.
Mais c'est ça. Alors, depuis des années, le déficit du commerce extérieur
non,
français.
Si je peux terminer.
Un million d'emplois détruits d'ici la fin de l'année aussi.
Si vous voulez, pour que ça se voit, il faut que la fonction publique, la haute fonction, fonctionne. Et brise les obstacles qui, jusqu'à présent, qu'elle a toujours semés sur le parcours, si vous voulez, de la distribution des budgets. Et ça, pour l'instant, on n'est pas sûr de ça.
Alors, si on revient au précaire, c'est vrai que 800 millions, comme dit Catherine, ça n'est jamais assez. Mais encore une fois, c'est vrai que la prime d'emploi des jeunes est 4 000 euros. C'est vrai qu'on peut penser que le pari sur l'activité et le pari sur l'emploi, qui donc est censé ramener 160 000 nouveaux emplois, mais en perdre 800 000, près d'un million
d'ici la fin de l'année, selon les
prévisions. C'est de la faute de personne, là, c'est vraiment de la faute de ce qui vient de se passer. Donc, c'est vrai que peut-être qu'en cours de route, sur le plan pauvreté, il y aura des aménagements. Mais pour le moment, en tout cas, il y a quand même beaucoup de prestations sociales, beaucoup de, d'argent qui ont été dépensés sur le chômage.
Oui, les amortisseurs sociaux
sont
là.
Les amortisseurs sociaux ont joué le coup.
Qui distribuent le plus. De tous les pays européens, c'est la France qui distribue le plus.
Donc c'est peut-être pour ça que les 800 millions qui ne sont pas... effectivement, on peut dire, ah ben, pourquoi 800 millions seulement. Mais si on compte avec tout l'amortisseur social, c'est vrai que c'est un peu différent.
Quand Castex dit, le Premier ministre Jean Castex dit, on ne va pas augmenter les impôts, il l'avait déjà dit, hein, il le répète. Oui. Premièrement, Catherine, est-ce que c'est un bon choix ? Et complément de ma question, est-ce qu'en période de crise, la solidarité ne doit pas jouer quand même un peu ? On pense évidemment à une contribution sur les hauts revenus.
Ah tiens, oui, il y avait longtemps que ce n'était pas sorti, ça. Oui, mais ça, oui, on pourrait toujours... oui, voilà, mais voilà, vous le dites, mais je pense que le gouvernement ne le fera pas.
Donc c'est le bon choix ?
Je pense pour l'instant que ce plan... est cohérent et que quand il dit qu'il n'y aura pas de nouveaux impôts, c'est vrai pour tout le monde parce qu'il faut que les gens dépensent. Voilà.
La seule chose qu'on peut dire, c'est que le gouvernement l'a dit deux fois. D'abord, le premier ministre Édouard Philippe l'avait dit une première fois, puis Castex le répète. C'est vrai que maintenant, ça va être quand même très, très difficile d'augmenter les impôts. Alors peut-être, effectivement, une contribution exceptionnelle
après,
en cours de
route. Campagne présidentielle, donc ça va être encore plus compliqué.
Voilà. ce que je voulais dire aussi, c'est que tout ça débouche sur 2022. Et ce n'est pas un hasard, évidemment. Ce n'est pas un hasard, c'est encore une fois un pari que tout aille bien pour ce moment-là.
Catherine, on va en parler juste après la coupure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et on parle du plan de relance dévoilé aujourd'hui par Jean Castex et ses ministres avec le débat des grandes voix. Charles Villeneuve, Michel Cotta et Catherine Ney avec moi en studio. Et une promesse qu'a fait Jean Castex aujourd'hui, que la France retrouve son meilleur niveau et son niveau de croissance d'avant-crise en 2022. Comme par hasard, j'allais dire, 2022, c'est l'année présidentielle. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un enjeu véritablement politique sur la réussite de ce plan de relance pour l'élection éventuelle d'Emmanuel Macron en 2022, Michel Cotta ?
L'enjeu, évidemment, est évident. Vous avez dit tout à l'heure que ça menaçait le gouvernement, mais il n'y a pas que le gouvernement que ça menace, il y a surtout le président. Et c'est bien pour ça que le pari aussi est un pari du temps. Il y a plus que deux ans. Hein. On sait que les crédits européens arriveront l'année prochaine. Est-ce que tout ça peut marcher avant, je dirais même pas 22, ça doit marcher à la fin 21 pour que la campagne puisse s'annoncer.
C'est un plan de relance de mandat, en fait.
Donc on est quand même sur un plan de rapidité. Et là, je rejoins tout à fait ce que dit Charles Villeneuve. On a besoin d'une intendance qui tienne le coup. C'est-à-dire de fonctionnaires à Bercy et ailleurs qui fassent leur boulot très vite. Et ça, on sait que le temps n'est pas forcément celui des techniciens de Bercy. Catherine, technicien, pas technocrate.
Catherine, quelques mots et puis après on passe à cette
vidéo.
Oui,
parce que jusqu'ici, le président aura laissé de pas très bons souvenirs parce que les gilets jaunes qui ont quand même empoisonné les gens pendant plusieurs mois. Après la grève des transports et puis les manifestations sur la réforme des retraites qui est abandonnée pour l'instant. Oui. Hein, bon. Et puis là, le Covid, non, mais il a eu un mandat difficile. Oui. Donc, il faut bien qu'il se termine de manière plus optimiste et où les Français voient un résultat. Mmh. Donc, il a absolument besoin d'un résultat.
Quand vous dites empoisonné, ça dépend de quel point de vue on se place. Oui. Parce qu'évidemment, pour les gens qui manifestent, c'était une colère saine.
Oui. C'était une colère saine, mais
quand même assez populaire dans
qui restait populaire, mais je pense à tous ces restaurants et ces commerçants qui ont fermé pour qui c'était des manifestations ils ont fermé leur boutique.
Alors, pour terminer, je voudrais qu'on évoque cette séquence qui fait beaucoup réagir. C'était mardi, lors de la visite du président Emmanuel Macron au Liban. Il s'en est pris, sans ménagement, vous allez l'entendre, à Georges Malbruno, c'est un grand reporter du Figaro, pour avoir rapporté des propos que le président a retenus sur de possibles sanctions contre des dirigeants libanais. Voici cette séquence que vous allez écouter, filmée par nos confrères de LCI.
Ce que vous avez fait là, compte tenu de la sensibilité du sujet, compte tenu de ce que vous savez de l'histoire de ce pays, est irresponsable. Irresponsable pour la France, irresponsable pour les intéressés ici, et grave d'un point de vue déontologique. Vous m'avez entendu défendre les journalistes, je le ferai toujours, mais je vous parle avec franchise. Ce que vous avez fait est grave, non professionnel et mesquin.
Charles Villeneuve, il est dans son rôle, le président de la République, parce qu'on ne voit pas les images, nous, évidemment, mais il y avait beaucoup, beaucoup de monde autour de lui quand il tend ce journaliste du Figaro, et il est dans une colère. Moi, j'ai rarement entendu comme ça.
Oui, enfin, la partie que joue la France, c'est vrai, en ce moment, au Liban, et le président de la République en première ligne, puisque c'est lui qui est à l'initiative, est difficile. Elle est très sensible. Et tout ça, c'est une conversation avec un député du Hezbollah. Le Hezbollah, c'est quasiment l'émanation totale de l'Iran. On l'a dit ici, je le répète. Bon,
mais un journaliste n'a pas, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, Charles, n'a pas à se censurer parce que ces informations seraient sensibles.
Ben, oui, tout à fait. C'est ce que j'allais dire et ajouter.
Ah,
si vous
très
voulez.
Bien.
La liberté de la presse, c'est un dogme dans tous les pays occidentaux et on voit qu'elle est mise à mal dans tous les pays de l'Est à l'heure actuelle, notamment. Et donc, je pense que son éclat est malvenu. Parce que, bien évidemment, il a tort de le dire aussi publiquement et avec autant de véhémence. Vous savez, pour grand que soit le roi, ils sont ce que nous sommes. Ils peuvent se tromper, hein, comme les autres hommes. Oui. Et il s'est trompé.
À ceci près qu'il ne discute pas vraiment avec lui. Hein. Il le tense et puis il tourne les talons et il s'en va. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Georges Malbruno, c'est un journaliste reconnu, ancien otage en Irak, grand spécialiste du Moyen-Orient et qui d'ailleurs confirme ce qu'il a écrit. Tout est vrai, dit-il, à l'issue de cet échange avec Emmanuel Macron. Michel Cotard.
Et surtout, j'ajouterais
un
formidable connaisseur de la situation politique libanaise. Je le connais très bien.
Oui.
Je connais assez bien aussi la situation politique libanaise et tout ce qu'il a dit est vraisemblablement vrai tel que je le connais.
Votre réaction, Michel Cotard.
Je suis sûr que ce qu'a dit Georges Malbruno est vrai parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui a des sources. Maintenant, je comprends que ça mette sur le moment le président en extrême difficulté. Parce que ça le met en extrême difficulté vis-à-vis du Hezbollah avec lequel il tente en Irak de trouver des passerelles pour l'Iran. Donc c'est très compliqué. Ceci étant, il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire comme ça. On a retrouvé le président qui était beaucoup plus pugnace et combatif tel qu'il a été dans les premières années. Il ne faut sans doute pas le faire. Mais moi, je dois dire que je préfère ça à l'intervention que j'ai connue de beaucoup de présidents de la République.
Par exemple ?
Oui, sur les patrons de l'information. En leur disant, videz-moi ce journaliste. Ah. Voilà, je préfère
la réponse directe. Quand tu étais présidente de la haute autorité.
Oui,
Catherine,
mais moi, je trouve que sa colère, surtout, donne une publicité formidable au papier de Georges Malbruno, confrères et moi-même, je dois dire, n'avaient pas lu, alors que j'adore Georges Malbruno, mais en ce moment, je ne lis pas tout. Et donc,
Mais est-ce qu'il a eu tort, le président de la République.
Oui. Ben, il a eu tort. On ne s'emporte pas comme ça. Oui. Surtout, d'habitude, il était beaucoup plus calme. Mais s'il s'est emporté de cette manière, c'est d'abord parce que ça le touche, parce que ça le gêne, parce qu'il dit que ça peut risquer de faire capoter ce voyage où il est la seule voix qui explique un peu où il essaye d'expliquer aux Libanais qu'il veut. Donc, il n'aurait pas dû, mais il faut le mettre sur le compte de la fatigue, de l'énervement.
Bien. Merci à tous les trois.